Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Clindinardaire, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, l'émission de théâtre en direct tous les vendredis de 13h à 14h sur Radio Canu. Aujourd'hui, je vous propose un voyage. Alors bon, désolé, pas de soleil, de plage, d'idylle rhapsodique. Non, ça ne veut rien dire, mais je trouvais ça joli à dire. Donc d'idylle rhapsodique, non, pas de tout ça. C'est plutôt dans le grand froid qu'on va vous emmener, hein. Direction Est-Est-Est. Et j'ai plutôt l'image de, vous voyez ces trains fantômes là, oui, à la Vogue, à la Croix-Rousse. Ces trains fantômes, sauf que là, les fantômes, ils font vraiment peur. Et puis en fait, c'est pas vraiment des fantômes. Allez, je vais contextualiser. Guerre de Tchétchénie. C'est bon, vous avez le tableau ? Et c'est Anna Politkovskaya qui va nous y emmener. C'est une journaliste russe et la seule de son pays à avoir couvert cette guerre. Femme non rééducable. Mais je ne vais pas vous en dire plus. Je vais laisser Léa Goud qui va nous présenter un texte justement qui s'appelle « Femme non rééducable » de Stefano Massini. Allez, une petite présentation quand même de Stefano Massini. C'est un jeune auteur de théâtre indépendant italien. J'ai une petite citation pour présenter un petit peu son écriture. On croirait lire des contes modernes où l'innocence le dispute à l'intelligence, où la langue est belle, la documentation précise, avec des détails foisonnants et un souffle qui transporte. Donc Stefano Massini a choisi d'écrire « Femme non rééducable » pour rendre hommage à Anna Politkovskaya. Et il parle pas de pièces, il parle de mémorandum théâtral. Donc c'est vraiment l'idée de rendre hommage. Mais allez, je vais arrêter de parler et laisser Léa Goud vous raconter son histoire.
Cette histoire pourrait commencer de mille façons. Par exemple, par un nom. Vladislav Surkov. Ce monsieur fait partie du bureau de la présidence russe. Le Kremlin lui accorde toute sa confiance. On l'écoute. En 2005, Surkov écrit textuellement dans une circulaire interne « Les ennemis de l'État se divisent en deux catégories, ceux que l'on peut ramener à la raison et les incorrigibles. Avec ces derniers, il n'est pas possible de dialoguer, ce qui les rend non rééducables. Il est nécessaire que l'État s'emploie à éradiquer de son territoire ces sujets non rééducables. » Il y en a qui disent que les pays dans le monde sont comme leurs fleuves, que l'âme des gens, l'histoire des peuples, s'écoule comme l'eau de leurs fleuves. Le fleuve Terek est un fleuve inquiet, un maelstrom de roches, de cascades, de tourbillons. Ses eaux glacées, il naît d'un glacier. Il s'écoule sur 600 kilomètres, d'abord au nord, vers la Russie, puis à l'est. Et il s'écoule, descend, jusqu'à former un gigantesque marécage avant de se jeter dans la mer Caspienne. Le fleuve Terek, un serpent d'eau enchâssé entre les montagnes du Caucase et deux mers, la Caspienne à droite, la Noire à gauche. Comme une motte de terre, aride, jetée entre deux flaques d'eau. Et les gens sont en guerre depuis des siècles. Ils se disputent le pouvoir sur cette motte de terre. Les pays ne se comptent plus. Ossétie, Ingouchie, Daghestan, Balkarie, Tcherkessie, Adygé, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, puis la Turquie. Et pile au milieu de la motte, fichée là, encastrée, suffocante, minuscule, la Tchétchénie. Agrippée aux rives du Terek. Terre inquiète, la Tchétchénie, comme son fleuve. Terre insoumise. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait des siècles. Elle ne veut ni chef, ni autorité. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait des siècles. Terre noble, hostile, comme les chevaux d'ici qui ne se laissent pas dompter. Terre insolente, la Tchétchénie, désobéissante, périlleuse. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait des siècles. Aujourd'hui encore, le salut que les gens s'échangent dans la rue n'est ni bonjour, ni bonsoir, ni Dieu te bénisse, mais la liberté soit avec toi. Marcho Doril. Liberté que personne ici n'a jamais connue. Depuis le XVIIIe siècle à nos jours, la Russie fait la guerre à la Tchétchénie pour se prouver qu'elle a le contrôle de l'Empire. Depuis le XVIIIe siècle à nos jours, la Tchétchénie ne demande pas l'autonomie, elle l'exige, avec des émeutes, des révolutions, des bombes, des attentats. C'est ça la Tchétchénie pour les Russes, une terre de rebelles, à dompter dans le sang. C'est ça la Russie pour les Tchétchènes. Une terre de chefs à chasser par le sang. Le tsar Nicolas Ier les a persécutés pendant 40 ans. Staline les a déportés en masse. Toute la population tchétchène déplacée en 3 jours au Kazakhstan. Planification territoriale soviétique, redistribution ethnique. Hommes, femmes, vieillards, enfants, tous reviennent à la maison seulement 13 ans plus tard, en 1957. Ces 10 dernières années, la guerre est presque ininterrompue. La guerre pour sauver la Russie des islamistes, les Arabes du Sud. En Russie, les peuples du Caucase, on les appelle les culs noirs. On appelle cette guerre la longue guerre contre les culs noirs. Les quelques voix qui s'opposent sont celles des mères des soldats. Elles protestent, marchent sur la place. Elles ne veulent pas laisser partir leur fils au front. Solution ? À partir de demain, on n'enrôle plus que des orphelins. Comme ça, personne ne râle. La Russie expédie en Tchétchénie des troupes de mercenaires sous contrat. Je te paie, tu tues. Se présentent pour l'enrôlement des ex-détenus, des criminels, des ultranationalistes du genre « je jouis quand je tue un cul noir ». Il s'appelle « Unité de nettoyage des bois tchétchènes ». De fait, ils nettoient, et comment ? Mieux, ils épurent. C'est différent. Je convainc un jeune gars des unités russes de me parler. Je le rencontre dans une caserne, à moitié vide, à la périphérie de Grozny. Il n'y a plus qu'une petite garnison d'hommes. Les autres se sont déplacés sur les montagnes. Sa tenue de camouflage taille plus grand que lui. Elle lui gonfle les épaules. Je ne lui dis pas, mais il a l'air ridicule. Tu t'appelles comment, Sacha ? Bien, Sacha. Sacha Gribdaïev, mais ne l'écrivez pas. Je peux te demander quel âge tu as ?
19.
Et tu es en Tchétchénie depuis quand ?
7 mois.
Tu l'as choisi ou on t'y a envoyé ?
J'ai choisi, personne ne m'y a obligé.
Comment se fait-il qu'un gars de 19 ans décide de venir en Tchétchénie ?
On me paie.
Rien que pour ça ?
J'ai souffert de la faim pendant 1 an et demi. Il n'y avait plus de travail.
Et tu t'es enrôlé ?
Je suis orphelin. À ce moment-là, j'ai appris que l'armée cherchait des orphelins pour la Tchétchénie et qu'il y avait plein d'argent à gagner. Si je devais recommencer, je le referais tout de suite.
Sacha, combien de personnes tu as tuées depuis que tu es en Tchétchénie ?
Je suis en ordre.
Qu'est-ce que ça signifie être en ordre ?
Avec les chiffres.
Quels chiffres ?
Chacun de nous doit en tuer 3 ou 4 par jour.
Par jour ?
Oui, 3 ou 4.
Au moins. Vous y arrivez ?
Il y a des techniques.
Par exemple ?
Le fagot humain.
C'est quoi ?
On entre dans un village, on prend 10 personnes et on les lie avec une corde. Puis on fout une grenade dans le tas et on fait sauter. Boum.
Excusez-moi, vous n'auriez pas une cigarette ?
Tu l'as déjà fait ?
Quoi ?
Ce fagot humain. Boum.
3 fois. Et tu en es fier ?
Il le ferait avec nous, nous le faisons avant. Et puis ? Je veux dire, ce ne sont pas des hommes. Ce ne sont que des Tchétchènes.
Et alors, cette cigarette ? Je regarde ce gamin devant moi. Au fond, il pourrait être mon fils. La question qui me vient est, y a-t-il une cause, une raison ? Puis je pense que sa vie, ses 19 ans, résume tout un pan de l'histoire de la Russie. Mon histoire, notre histoire, en 5 étapes. 1986. Le gamin est né en 1986, c'est-à-dire quand Gorbatchev parle de liberté et de transparence. 1986, perestroïka, glasnost, vie nouvelle.
on parle à voix basse, on pense tout est en train de changer. Dans les journaux, on commence à se demander quelle saloperie de cadavre le KGB cache dans ses placards. 1991, le jeune gars a 5 ans, il va à l'école. Il voit la fin de l'Union soviétique, il entend beaucoup de discours, l'Occident, la démocratie, des désirs, des rêves, des espoirs, regarder vers l'avenir. Si tu veux vexer quelqu'un, tu lui dis « face de KGB », ça veut dire « face de merde ». 1996, là, il a 10 ans. La grande désillusion. En Russie, on ne mange plus. Les magasins sont fermés, des délinquants partout, des prix fous. Dans les rues de Moscou, un mélange de millionnaires en Rolls-Royce et de foules de gueux. Le président de la Russie est Boris Yeltsin, sous du matin au soir. Au funérailles d'État, en direct à la télé, il rit et siffle. Inversion de marche. Quelqu'un dit « N'empêche, le KGB fonctionnait très bien. Il assurait l'ordre. » L'ordre qui n'est plus là. 2001, le jeune homme a 15 ans. La Russie, c'est pire que le Far West. On te tue dans la rue pour te voler d'un rouble. Personne ne travaille. Il y a des bandes de mafieux, des attentats, des bombes, des immeubles explosent, des métros. Les places noires de manifestants. Néo-nazis, néo-léninistes, néo-staliniens, néo-tsaristes, hyper-ultra-extra-nationalistes hissent des drapeaux en criant « si au moins il y avait encore le KGB ». Et de fait, on prend un ex-colonel des services secrets et on le fait président. On déclare la guerre patriotique contre la Tchétchénie. On dit que c'est un triomphe. Vive le président, vive la Russie, nous sommes de nouveau une grande nation. 2005, aujourd'hui, le jeune homme a 19 ans. Il se consacre au fagot humain. Et il est content. Mais si je lui demande « Tu veux faire quoi dans la vie ?»« Maintenant, je fais la guerre. » Et quand elle sera finie ? J'espère qu'elle ne finira jamais. Journée type d'une journaliste à Grozny. Liste des problèmes d'une journaliste à Grozny. 7h du matin, réveil. Premier problème, se laver. L'aqueduc a explosé. Il n'y a plus d'eau. Tu ouvres le robinet et pas une goutte. L'eau en bouteille coûte cher. De toute façon, tu n'en trouves plus, même si tu es prêt à la payer. La seule eau de Grozny, c'est les militaires qui l'ont. Ils l'amènent depuis la Russie en camion-citerne. À la sortie de leur campement, en effet, il y a une queue immense. Ils se font payer, au noir, pour 3 minutes de douche, montre en main. 9h, petit déjeuner. Deuxième problème, il n'y a rien à manger. Mais il faut bien que tu manges quelque chose. Parce que 8 mois par an, il fait un froid de canard et si tu ne manges rien, tu tombes dans les pommes. Et voilà que tu tentes de résoudre ton problème en te mettant en quête de provisions. Attention, pas la peine de chercher ce que tu aimes. Ce serait du luxe. Non, je veux dire le minimum comestible. Tu déjeunes avec une demi-boîte de viande, du lait en poudre, des anchois, des galettes au son. Ouais, celle pour les régimes. Les crampes à l'estomac sont terrifiantes, je le garantis. Autrement, si on veut manger, la seule nourriture à Grozny, c'est les militaires qui en ont. Ils l'amènent de Russie avec des fourgons. À la sortie de leur campement, en effet, il y a une queue immense. Ils se font payer, au noir, pour un paquet individuel avec une seule tranche de pain. Parfois, j'y étais. 10h, tu commences à faire ton métier. Tu devrais écrire un papier. Troisième problème, il n'y a pas d'électricité. Mieux, elle va et vient. Il y a des attentats, on vise les centrales téléphoniques, le réseau cafouille. Alors tu te mets à écrire à la main, sur des bouts de papier. Puis tu dictes au téléphone, depuis une officine bien sûr, parce qu'il n'y a pas de réseau pour les portables. Il reste une dizaine d'officines en tout et pour tout au centre-ville. Les seuls téléphones à Grozny, ce sont les militaires qui les ont. Si tu peux peut-être, mais ça je n'ai jamais essayé. 13h. Tu t'actives, entre autres pour recueillir des interviews. Quatrième problème, se déplacer. La moitié des rues a explosé. Il y a des cratères, des crevasses, des fosses partout. Tu ne peux te déplacer qu'en 4x4. Les militaires en ont, mais les gardes. Alors commence ma grande chasse aux véhicules. 15h, 16h, 17h, tu rencontres des gens, tu prends des notes, tu observes. Cinquième problème, les postes de contrôle. Le concept de base, j'ai compris, est le suivant. Pour les militaires russes, les gens de Grozny ne devraient pas quitter la ville. Pour eux, la ville entière devrait vivre emmurée, cadenassée. Dès que tu sors dans la rue, tu es déjà en tort. On t'arrête entre 5 et 10 fois par jour. On te demande tes papiers, on les contrôle. On fait de l'ironie, on blague cochon. J'encaisse. 18h. La nuit commence à tomber. Sixième problème, le couvre-feu. À partir de maintenant, les problèmes triplent. Non seulement à cause des postes de contrôle, non seulement parce que tu dois rentrer, va savoir comment, non seulement parce que tu commences à avoir faim. Il y a d'autres problèmes dès qu'il fait noir à Grozny. Les bandes de hors-la-loi. Ils se postent derrière les coins dans le noir. Il n'y a qu'un réverbère sur 10 qui marche. Et ils te volent n'importe quoi, y compris les boutons de ton chemisier. Si tu ne tombes pas dans les mains des délinquants, tu peux toujours compter sur les poivrons. Ils achètent de la vodka aux militaires. Ou bien sur l'un ou l'autre drogué. Ils achètent de l'opium aux Tchétchènes. Et en prime, tu te tapes la délicieuse éventualité des hordes de chiens errants qui en ville mettent en pièce des dizaines de personnes chaque mois. 22h. Il est temps de dormir. 7e problème, dormir. Les explosions sont au nombre de 4, 5 ou 6 par nuit. Voilà. Fin de la journée. Fin des problèmes. Hôpital numéro 9. Tu as vu ? Il y a plus de mouches ici à l'hôpital que dans une porcherie. L'hôpital numéro 9 de la capitale, Grozny. Je suis ici pour interviewer un grand professeur. Il est jeune. Il s'appelle Sultan Khayef. Il a une jambe raide paralysée. Je lui demande ce qu'il a fait à sa jambe. Souvenir d'une mine ? Non. J'étais en voiture à un carrefour, une auto blindée de l'armée russe est arrivée à fond de caisse. Une fusée en pleine ville. La voiture a eu un sinistre total, moi j'ai été éjectée. Un militaire russe conduisait, 20 ans, sous. Il y a eu une enquête. On lui a donné une médaille. Tiens donc. Ceci est le seul hôpital. Le seul qui soit resté debout. Tant bien que mal. Mais debout. Si vous passez dans les différents services, vous verrez par-ci par-là, il manque un mur. On aperçoit l'extérieur. C'est le cadeau de quelques coups de mortier. De l'armée ? De n'importe qui. On ne sait plus qui tire à Grozny. On sait que ça tire, c'est tout. Il y a des lits de camp partout. Ici, on prend un banc, on jette une nappe par-dessus, et ça devient un lit. Aux urgences, on opère les gens sur des planches en bois. Docteur Khayef, combien de blessés arrivent dans ce service ? Les derniers mois, presque 300. Les gens arrivent sans cesse. L'un sans un bras, l'autre sans la moitié du visage. Souvenir d'une mine. Je vois surtout des femmes. En effet, la plupart sont des femmes. Elles viennent de la campagne, des villages voisins. Il y a des bandes mixtes de militaires russes et de francs-tireurs tchétchènes. Ils rivalisent entre eux à qui en viole le plus en une seule nuit. Et la police ne les arrête pas ? Ici, le viol est légal. Si tu violes une femme, personne ne fait rien. Au régiment cuirassé du colonel Bounanov, chaque nuit on amène des filles. Le lendemain matin, elles finissent ici. À moins qu'ils ne s'amusent à les tuer en les rouant de coups. Et tôt ou tard, elles rentrent à la maison ? Non, par tradition tchétchène, lorsqu'une femme est violée, elle n'est même plus digne de son mari. Elles sont abandonnées, même par leur famille. Elles sont impures. Qu'est-ce qu'elles deviennent ?
Rien.
Elle reste comme ça, sans rien. En Tchétchénie, tout est comme ça. En suspens. Les gens n'existent pas. Nous sommes des corps sans rien dedans. Nous ne sommes personne. Une terre de personne. Je pense qu'au fond, il suffit de peu de choses pour comprendre ce qu'est la Tchétchénie. Il suffit de regarder qui commande. Non ? Ramzan Kadyrov, âge 30 ans. Premier ministre, aujourd'hui c'est le président de la Tchétchénie. Sa gueule est sur toutes les affiches, sur tous les murs, dans toutes les rues de Grozny. Vous vous demandez comment se fait-il qu'un jeune homme de 30 ans soit devenu premier ministre ? Son histoire au fond est simple. Alors, le père de Ramzan était Ahmad Kadyrov, président de la Tchétchénie. à un peu plus de 20 ans, Ramzan est nommé chef du service de sécurité présidentiel tchétchène. En 3 ans, il collectionne de nombreuses accusations de viol, de violence, d'homicide. Bien. On continue. À 25 ans, Ramzan Kadyrov fonde une armée. Eh bien oui, ça aussi c'est possible en Tchétchénie. Le fils du président fonde son armée privée. On le paie avec l'argent de l'État et la Russie le soutient. L'armée de Kadyrov Junior compte plus de 3000 hommes. Elle prend le nom de son chef. Les troupes s'appellent les Kadyrovti. L'Observatoire des droits de l'homme soutient que 70% des tortures en Tchétchénie sont à l'heure actuelle imputables à l'armée personnelle de Ramzan Kadyrov. Bien, on continue. Ramzan Kadyrov reste le chef de la sécurité jusqu'au 9 mai 2004. À cette date se tient dans le stade de Grozny une parade pour commémorer la victoire des soviétiques lors de la Seconde Guerre mondiale. Le président, père de Ramzan, est assis à la tribune d'honneur. Coup de théâtre. Une forte charge d'explosifs fait sauter en l'air tout le comité présidentiel. Le jeune Ramzan n'était pas présent au stade et survit. Coup de bol. En signe de solidarité, les Russes donnent à Ramzan la deuxième charge de la République tchétchène, vice-premier ministre. Pas mal du tout. Ramzan n'a que 28 ans et est déjà vice-premier ministre. Mais ça ne lui suffit pas. Il le dit publiquement plus d'une fois. Il voudrait être au poste du premier ministre Sergueï Abramov. Et son rêve se réalise. Parce qu'Abramov meurt dans un accident de la route en décembre 2005. Personne n'a encore élucidé les causes de l'accident survenu à Moscou. Toujours est-il que Ramzan devient automatiquement premier ministre. Bien, on continue. Aujourd'hui, Ramzan Kadyrov dirige la Tchétchénie avec le soutien des Russes. Le sien est un gouvernement de la terreur, fondé sur des troupes paramilitaires. En 10 ans, un quart de la population originelle a été exterminée. Anna Politkovskaya interview pour son journal Ramzan Kadyrov, tout de suite après sa nomination de Premier ministre. Ses réponses sont publiées telles que Kadyrov les a formulées, sans changer une virgule. D'habitude, les politiciens se lamentent quand les interviews ne sont pas fidèles à ce qu'ils ont dit. Mais dans ce cas, c'est le contraire. La réaction de Kadyrov le lendemain de la publication. Je trouve inacceptable le comportement de cette journaliste. Ne sait-elle pas que le rôle de l'intervieweur, c'est d'avantager l'interviewé? De quel droit a-t-elle publié mes réponses telles que je les ai formulées? Probablement, cette femme ne veut plus être des nôtres. Une radio allumée. Musiquette. La chambre d'à côté. Peut-être l'autre, je ne sais pas. De toute façon, elle est allumée. Je suis assise. C'est quoi, une chaise? Je n'ai pas prêté attention. Peut-être une caisse. En bois? Je n'ai pas l'impression. En carton? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je n'en ai pas la moindre idée. Les gouttes de transpiration sont si grandes que je pourrais les compter. Ouais, je pourrais les compter. Sur le cou, derrière les oreilles, le long des cheveux. 1, 2, 3, 20, 30, 50. Eux m'encerclent. Combien sont-ils? 3, 4? Mais il y en a un autre aussi. Il entre et il sort. Le canon du fusil est pointé contre ma nuque. Depuis combien de temps maintenant? 1 heure, peut-être plus, ou peut-être moins. J'ai l'impression que ça fait un siècle. Alors, journaliste, tu ne veux pas nous dire avec qui tu as parlé? La musiquette de la radio ne diminue pas. J'entends un bruit à ma droite. Instantanément, je tourne le visage. Une main attrape mes cheveux et tire vers le haut, tandis qu'un coup de poing me fracasse le nez. Je tombe par terre. Je traîne mon visage contre le sol. On m'envoie un coup de pied dans la poitrine. Et à deux, on me soulève par les aisselles. Ils m'entraînent dans la cour. D'ici, la musiquette ne s'entend plus. Ils me lient à quelque chose. Je sens le métal froid dans mon dos. Un mortier, je crois. Lui s'amène. Son visage tout contre le mien. Maintenant, on va faire boum et ils vont te retrouver en petits morceaux. Qu'est-ce que tu fais, journaliste? Tu ne causes pas?
Je ne parle pas, en effet. Aucun son. Pas un mot. Pas une larme, pas un gémissement, pas un cri. Je ne suis plus moi-même. Je ne bouge pas un doigt. Je ne m'appartiens plus. La musiquette a repris, ça, je l'entends. La porte s'ouvre. Un type entre en courant. Il dit quelque chose à l'oreille de l'autre. C'est à mon sujet, il me fixe. Journaliste, le ministère t'a sauvé par la peau du cul. Je ne réagis pas, ça ne me regarde pas. Il me détache, on y va. Un hélicoptère est prêt à partir. Je ne bouge pas mes jambes, il me jette dedans. Je reste là, étendue pendant tout le vol. Les pilotes ricanent, blagues cochonnes. À côté de moi, je sens un autre corps. J'explore avec mes doigts. Je tourne ma tête. Ce n'est pas facile. C'est un cadavre, encore chaud.
Lettre ouverte, publiée dans le journal de Sakhalin par les militaires du 68e corps de l'armée russe en Tchétchénie. Lettre de réponse, publiée dans le journal de Sakhalin par Anna Politkovskaya. 23 mars 2001, à la très peu estimable journaliste Anna Politkovskaya. 13 avril 2001, aux anonymes officiers de l'état-major du 68e corps de l'armée russe. Chère madame, vous n'êtes pas la première et vous ne serez pas la dernière à offenser les forces armées russes. Nous avons senti le besoin de vous écrire, malgré le mépris, non pour répondre à la boue avec laquelle vous nous souillez, mais parce que ça nous choque que vous soyez considérée comme une grande chroniqueuse. Chers messieurs, vous savez qui je suis, mon nom et prénom, parce que je ne me cache pas derrière l'anonymat et je ne marche pas en Tchétchénie un passe-montagne noir sur mon visage, comme le font les troupes russes, pour un motif que nous ignorons. Vous nous accusez durement de vous avoir arrêté un poste de contrôle en février dernier. Bien. Il est possible que vous ayez été traité durement, voire avec une certaine violence. Vous m'écrivez que je vous éclabousse. Je ne fais que raconter. Si je vois que les impôts publics financent la violence et la torture, j'ai le devoir de l'écrire. Si vous voulez être traité avec des gants, vous n'aviez qu'à pas venir en Tchétchénie. Si vous êtes vraiment une grande journaliste, vous devriez savoir que la guerre a ses règles et qui les enfreint ne doit pas venir pleurnicher ensuite, comme vous le faites dans vos articles. Vous ne devriez pas venir ici pour diffamer ceux qui risquent leur vie pour éviter que votre bel immeuble de Moscou ne saute. Vous m'écrivez que vous risquez votre vie pour la Russie. J'ai demandé aux militaires de m'escorter dans des zones dangereuses et personne n'a bougé. J'ai vu par contre vos militaires saccager des bureaux de poste et expédier de l'argent à Moscou dans des cercueils de soldats morts. En nous accusant, vous êtes du côté opposé au nôtre. Donc vous êtes un ennemi, chère madame. Sachez qu'ici, nous sommes sans pitié envers nos ennemis. Et nous continuerons de l'être, par devoir envers notre patrie. Vous m'écrivez aussi que je suis une ennemie, et pour cela vous me menacez, jusque dans les colonnes d'un journal. Je vous réponds que je le suis, c'est vrai. Ennemi d'une armée de criminels, recrutés dans les prisons ou parmi la pègre de Moscou. Ennemi de ceux qui violent, saccagent et volent. Même si nous signons pas personnellement, sachez que nous sommes un groupe d'officiers de l'état-major. Si en plus vous êtes vraiment fier de ce que vous faites, si vous êtes convaincu d'être dans votre droit, très bien. Retirez vos passe-montagnes, ça suffit avec l'anonymat. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que j'ai tort. Votre dévouée, Anna Politkovskaya. Canapé. Chez moi. Non, pas en Tchétchénie. Non, chez moi. À Moscou. Télécommande. Je zappe, distraitement. Publicité, nouvelles. Un jeu, du sport. Rien ne me frappe. Je zappe distraitement. Puis, je m'arrête. Première chaîne de télévision publique. La télévision d'État. Télévision russe. 20h, le plus grand taux d'écoute. Donc en ce moment, dans toute la Russie et au-delà, des millions d'écrans, dans des millions de maisons, se syntonisent. C'est la première diffusion du nouveau téléfilm. Titre: la guerre juste. Ça se passe de nos jours, en Tchétchénie. Je ne sais plus, ça m'intéresse. Les protagonistes, un groupe de soldats russes. Ils sont jeunes et beaux. Chacun reçoit une lettre. Tu partiras pour la Tchétchénie. Personne ne râle. Au contraire, ils sont tous hilars. Ils tiennent des propos du genre « Je quitterai tout pour défendre ma patrie.
Un père dit adieu à son fils qui part au front. Il lui dit « De mon temps, j'ai combattu Hitler. C'est ton tour. » Larmes, émotions. Je remarque qu'à chaque fois qu'il y a un plan des troupes russes, démarre une bande-son de violon. Ils ne boivent pas, ne disent pas de vulgarité. Ils sont honnêtes, loyaux. Ils s'appellent « Mon ami ». Ils s'entraident, se sacrifient. Ils écrivent des lettres à la maison en claquant des dents à cause du froid. Quand l'un d'eux est blessé par une mine, on entend un cœur angélique, la chute du héros. Face à eux, il y a les méchants, c'est-à-dire les Tchétchènes. On a casté des comédiens laids, balafrés, pleins de cicatrices et de bandages. Il y a un borgne, un édenté. Un autre, le chef, porte un turban orné d'un serpent. Il boite, on l'appelle l'éclopé. Je remarque que les personnages russes ont le beau prénom. Les Tchétchènes, eux, n'en ont pas, juste des sobriquets, genre la brute, le faucon, œil de rat. Pas une séquence sans que les Tchétchènes ne disent d'obscénité. Ils volent, se droguent, se trahissent l'un l'autre. L'un tue sa femme, l'autre vend ses enfants. Ils font des plans d'attentats à Moscou en se marrant. Lâchent des « Nous allons les zigouiller, ces salins russes !» Quand l'un d'eux meurt, le ciel s'ouvre, transpercé par un rayon de soleil. Dans une scène du premier épisode, l'action se déroule dans une mosquée de Grozny. On dirait le repère des ogres dans les fables russes, un bouge infâme, humide. Tout le monde est armé jusqu'aux dents. Le plus beau personnage est une jeune fille, tchétchène. C'est bizarre, elle a un prénom. Rukyat. Elle sort avec un tchétchène laid et méchant qui la bat jour et nuit. Mais voilà qu'elle tombe amoureuse de Sacha, un soldat russe. Lui la sauve, il l'emmène à la caserne russe. Là, tous les officiers lui disent « Tu es à l'abri ici ». Là-dessus, elle pleure et dit « Allah vous bénisse ». Dans le générique de fin, une inscription défile lentement. Elle prend tout l'écran. Vous venez de voir une histoire vraie. À ce moment-là, dans toute la Russie et au-delà, des millions d'écrans, dans des millions de maisons, vous venez de voir une histoire vraie. La ville est blanche. Le ciel est blanc. Cela fait des mois qu'il neige sur Grozny. Sans interruption. Jamais vu un hiver pareil. Glace, neige fondue, l'angoisse. Les décombres recouvrent la neige. Les immeubles éventrés, béat, désert. Les squelettes de fer, du ciment armé, des vitres. 15 degrés sous zéro, des décombres surgélateurs. On voit ça aussi à Grozny. Sur l'un ou l'autre mur, au milieu du blanc, se détache une inscription rouge à la peinture fraîche. « Russe, rendez-vous, vous êtes encerclés. » On voit ça aussi à Grozny. C'est un après-midi comme tant d'autres, d'un hiver glacé, 4 jours avant la fin de l'année. Je ne sais pas encore que cette date deviendra célèbre, le plus grand attentat de ces 10 dernières années. Des Tchétchènes font sauter en l'air d'autres Tchétchènes, entre eux. Parfois on dit comme des bêtes, mais les bêtes ne se tuent pas comme ça entre elles. Un camion bourré d'explosifs. Un kamikaze l'explose contre un mur. Le mur du palais du gouvernement. Un nombre de victimes incalculables. Celui qui n'a pas vu de ses yeux un attentat, qu'il évite d'en parler puisqu'il n'en sait rien. Celui qui pense que le sang à terre est rouge, qu'il se taise. Il ne sait pas qu'il est marron, presque noir. Celui qui pense qu'un cadavre est impressionnant. Qu'il n'en dise mot, car il ne sait rien des corps qui se traînent au sol, vivants, en morceaux. L'explosion fait trembler les murs. Ce n'est pas la bombe habituelle, ni un coup de mortier. Non, cette fois, c'est autre chose. C'est ce que je pense. Le temps s'est arrêté. Stop. Silence. D'abord la détonation, assourdissante. À présent, le silence. Le temps s'est arrêté. Pendant un instant. Puis il a recommencé. La fumée envahit la rue, instantanément, et comme venant du néant, dans un écho lointain, un son que je ne connais pas. Si je sais ce que c'est,
emmêlé, bestial, profond. Je viens de comprendre qu'il s'agit des cris de ceux qui sont là. Je décide de courir, je veux voir. Je tourne le coin, je cours. Une masse de gens s'enfuit, je cours. En hurlant, en criant, elle s'enfuit, je cours. En sens opposé, elle s'enfuit, je cours. Les visages sales, gris, poudreux, fuient, je cours. Ils se heurtent, se cognent, ils ne me voient pas, je cours. La fumée dans l'air te prend à la gorge, je cours. Et le cœur dans ma poitrine qui bat, qui bat, qui bat la chamade, je cours. L'essoufflement, je n'ai plus de souffle, je cours. Même les yeux ne résistent pas à la fumée, ils brûlent, je cours. Ils brûlent à en crever, je cours. Les flammes maintenant, je les vois, immenses, je cours. Derrière moi, les sirènes qui arrivent, je cours. Je glisse, je me rattrape, la neige est fraîche, je cours. On dirait du brouillard dans l'air, je cours. Ce n'en est pas, c'est la fumée des cendres. La poussière, je cours, j'y suis presque, je cours, je lève les yeux, je cours, je m'arrête. Le sang, la neige, le sang, la neige, le sang, la neige, du feu partout, devant mes pieds, dans la glace. Des fourgons incendiés, des voitures sur le côté, des papiers, des dossiers, des vêtements en lambeaux, des uniformes, des soutanes, des chapeaux en laine, des écharpes, des loques, des gants, des pneus, des capots de voiture, des morceaux de mur, des gravats, des bris de verre, des éclats, des bouts de fer, des bouts de verre, des bouts de bois, des têtes humaines, des carrelages, des clenches, un volant, un siège de voiture, une radio, une jambe, du pétrole, de l'essence, un panneau routier, un chien mort, des tiroirs, un enfant, un phare avant, des cheveux, des tisons. Le sang, la neige, le sang. Eh oui, on voit ça aussi à Grozny. Lumière jaune, orange, verte, bleue. Reflet doré sur le carrelage blanc. Tapis rouge, partout dans le hall. Divan pour le public. Accrochées sur les vitrines, les affiches du musée-école Nord-Ost, criblées par les balles. Nous sommes l'un devant l'autre, moi et le chef des terroristes. Je sais qu'au-delà de cette porte, au parterre, il y a des centaines de personnes. Leur sort dépend aussi de moi. Le fusil mitrailleur plaqué sur ses genoux, il ne le retirera jamais. Nous parlons comme ça, assis, dans le hall du théâtre Dubrovka. Sur le sol, une mer de vitres brisées. Glace fondue, couleur framboise. Ça colle aux chaussures. Je m'appelle Bakar, Abou Bakar. Je suis Anna Politkovskaya. Pourquoi avez-vous accepté de venir? Je ne sais pas, j'ai accepté, maintenant je suis là. Ne perdons pas de temps. Perdre du temps pour... Pour la tractation. Vous pensez que vous êtes ici pour ça. Est-ce qu'il y a un autre motif? Je veux que cela soit clair. Dans ce théâtre, nous détenons 800 otages. Nous sommes 41 ravisseurs. Nous sommes tous prêts à mourir. Justement, dites-moi ce que vous voulez. Peut-être ne voulons-nous rien. Qu'en pensez-vous? Seulement montrer que nous existons. Que la Tchétchénie existe. D'accord, mais dans la salle, il y a des enfants, libérez au moins les enfants.
Pourquoi ? Vous croyez que les soldats russes en Tchétchénie ne s'en prennent pas à nos enfants ? Maintenant, nous tenons les vôtres. Ça vous apprendra. Faites apporter de quoi manger. Il y a des femmes enceintes. Cela fait quelques jours que vous êtes enfermés ici. On n'en a rien à foutre. En Tchétchénie, les gens meurent de faim. Vous n'obtiendrez rien comme ça. Peut-être, mais en ce moment, le monde entier voit à la télévision le théâtre de la Dubrovka et ses 800 otages. Le monde entier se fout de nous. Vous êtes en train de nous tuer. Ça doit cesser. Mais qui êtes-vous pour réussir une telle prise d'otages ? Un bataillon de combattants pour la Tchétchénie. Des guerriers russes ? Que pensez-vous que nous soyons ? Des soldats à la débandade ? Moi, je suis diplômée. Ma femme est médecin. Là, avec leur passe-montagne, ce sont des professeurs, des ingénieurs. Et vous êtes tous venus ici, seulement les meilleurs. Nous avons fait une sélection. Ça fait un an que nous nous préparons. Quel âge avez-vous ?
Entre 20 et 30 ans.
Admettons que j'obtienne un cessez-le-feu. Ne me dites pas que vous y croyez vraiment. Vous croyez qu'on vous écoutera ? Nous avons demandé à vous voir parce que nous savons ce que vous écrivez. Mais prenez garde, vous n'irez pas très loin non plus. Politkovskaya, la Russie a besoin de notre sang. Votre tractation est une connerie, ils nous attaqueront. Même si nous libérons les otages, ils nous attaqueront. Et alors, vous allez faire quoi ? Nous sommes bourrés d'explosifs. Nous allons nous faire sauter. Tandis qu'il dit ça, il soulève sa veste de camouflage. Il porte une grosse ceinture épaisse, pleine de fils électriques, prête à exploser. Madame Politkovskaya, où allez-vous ? Qui êtes-vous ? Service d'ordre ? Que me voulez-vous ? Où allez-vous ? Ossétie, Beslan, à l'école où il y a la prise d'otage. Bien, suivez-nous. Votre vol est celui-ci. Je monte à bord. Je m'assieds. Je suis essoufflée. Je pense, je voudrais dormir. J'ai soif. Je demande un thé. Je me souviens le plateau en plastique dur. C'est trop chaud. Je souffle dans le gobelet. Je bois. Une gorgée, puis l'autre, en regardant l'extérieur. Moscou disparaît. Je bois. Les maisons, les rues, les champs, je bois. Puis le brouillard. Je m'endors. Je vais où ? Et là, maintenant, je suis où ? Je rassemble mes forces. Je les serre toutes dans mon poing fermé. Je crie en moi, « Vas-y, ouvre les yeux, laisse-moi voir !» Ma poitrine bat très très vite maintenant. Je pousse sur mon front. Une douleur lancinante à la tête, je vais craquer. Puis j'écarquille les yeux. Le blanc, c'est une chambre. Couloir d'hôpital. Les voix de tout à l'heure sont celles de deux infirmières. L'une maigre, l'autre blonde avec des tresses marrantes. Elle sourit. L'une des deux prend mon pouls. Maintenant calmez-vous, tout va bien. Reposez-vous, vous serez vite sur pied. J'ouvre les rideaux. Vous désirez un peu de lumière ? J'acquiesce en baissant mon menton. Puis la fatigue me noie, déferlant par le bas comme une vague. Avant de fermer les yeux, tandis que tout devient flou, je parviens à demander du bout des lèvres « J'étais dans l'avion et puis quoi ?» Et la réponse arrive, avec un sourire. « Vous avez été empoisonné. » « Là-bas, dans cette école, en Ossétie, à Beslan, vous y avez été ? Dites-nous, selon vous, qui a raison, Madame Politkovskaya ? Prendre position, c'est faire preuve d'intelligence, vous ne croyez pas ? Qui a tort, Madame Politkovskaya ? Qui a raison, Madame Politkovskaya ? Les Russes ou les Tchétchènes ? L'armée ou les terroristes ? Qui soutenez-vous ? Qui condamnez-vous ? Qui s'est trompé, Madame Politkovskaya ? Prendre position, c'est faire preuve d'intelligence ? »
Oui. J'ai été à Beslan. Quelque temps plus tard, j'ai touché de ma main. J'ai vu une armée de tombes, de cercueils, de fosses. J'ai vu une école réduite en éclats. Les crayons par terre à peine taillés. Les dessins sur lesquels étaient inscrits « Premier jour de classe ». Les guirlandes arrachées, les noms des classes. Cahiers lignés, quadrillés. J'ai vu la salle de sport que l'on a prise d'assaut au lance-roquettes alors que les otages étaient à l'intérieur. J'ai vu les toilettes éclaboussées de sang, partout. Et l'empreinte des corps entassés, calcinés sur les parois.
Vous avez été jusque là-bas, Madame Politkovskaya. De quel côté êtes-vous, Madame Politkovskaya? Les Russes ou les Tchétchènes? L'armée ou les terroristes?
Eh bien voilà. Prendre position, c'est faire preuve d'intelligence.
Non, non, mieux encore. Je soutiendrai les terroristes qui, bourrés de tolites, se sont fait sauter en serrant un enfant dans leurs bras en classe de géographie.
Un moment, ne serait-ce pas mieux que je soutienne l'armée? L'armée qui bombarde avec des grenades le plafond d'un salon où sont entassés 400 mineurs d'âge. Prendre position, c'est faire preuve d'intelligence. Je pourrais soutenir les terroristes tchétchènes qui ont fait boire de l'urine aux otages. Je pourrais soutenir l'armée russe qui, contre Beslan, a utilisé des armes interdites. Prendre position, c'est faire preuve d'intelligence. Je pourrais soutenir les Tchétchènes qui, aujourd'hui encore, célèbrent le chef de Beslan en héros. Je pourrais soutenir les Russes, leur président, qui, sur les victimes, 339, ne dit pas un mot. Bien sûr, prendre position, c'est faire preuve d'intelligence. Je sais que j'ai marché à Beslan, au milieu des fosses. Il y en a de simples, de doubles, de triples, de quadruples, de quintuples, de sextuples. Les noms sont sculptés sur du bois avec la pointe d'un tournevis ou sur du carton avec un feutre. Toi, tu marches au milieu de tout ça et tu lis. Je devrais prendre position, parce que prendre position, c'est faire preuve d'intelligence. Alors voyons, voilà. Je soutiendrai les terroristes qui, bourrés d'héroïne et de marijuana, ont pris 1127 otages dans une salle de sport le premier jour de classe. Ou je soutiendrai l'armée qui a utilisé des lance-flammes contre des enfants de moins de 10 ans. Je voudrais demander à ceux qui font preuve d'intelligence. Sur les tombes, y a-t-il écrit « tué par les Russes » ou bien « tué par les Tchétchènes » ? Y a-t-il écrit « tué par l'armée » ou « tué par les terroristes » ? Je recommence à marcher. Allée numéro 2, section concierge, instituteur, parent. Qu'est-ce que je fais ? Je continue ou je détale ? Je continue ou je ferme les yeux ? Prendre position, c'est faire preuve d'intelligence. Je n'écris jamais de commentaires, ni d'avis, ni d'opinions. J'ai toujours cru que ce n'est pas à nous de juger. Je suis une journaliste, pas un juge, et encore moins un magistrat. Je me limite à raconter des faits. Les faits tels qu'ils se produisent, tels qu'ils sont. Ça peut paraître la chose la plus simple. Ici, c'est la plus difficile. Et ça coûte un prix fou. Le prix que tu payes quand tu ne pratiques plus un métier, mais que tu entres en guerre. Tu combats. Et à 47 ans, je suis fatiguée. Ni apeurée, ni découragée. Fatiguée. Fatiguée de lire chaque jour dans les journaux politiques que je suis folle. Politkovskaya la schizo. Politkovskaya la parano. Fatiguée d'expliquer à mes enfants pourquoi celui qui dit la vérité est un fou et celui qui ment fait carrière. Fatiguée de recevoir entre 10 et 15 menaces de mort par semaine. Elles m'arrivent sur mon PC, parfois au téléphone. Fatiguée de me sentir une criminelle. Tous les 6 jours, quand un de mes papiers paraît, je suis conviée chez le procureur. Certains sont là parce qu'ils ont volé, d'autres ont commis une attaque à main armée, d'autres ont violé. Moi, j'ai fait du journalisme. Je connais les couloirs, les salles d'attente, les bureaux. J'entre, je m'assieds. La première question est toujours la même. Pourquoi vous avez écrit des mensonges? Et qui vous a donné ces informations? Suit un interrogatoire. 2-3 heures, pourquoi pas même 4. Parfois, on me retient en garde à vue, parfois on m'arrête. Je suis fatiguée d'expliquer à mes enfants pourquoi je passe la nuit en tôle. Fatiguée de penser que l'information libre ici n'existe plus. 90% des journalistes en Russie travaillent pour le pouvoir. Quand tu travailles pour eux, tu n'es plus une journaliste, tu es un porte-parole. Ça marche comme ça. La presse se divise en ceux qui sont pour la Russie et ceux qui ne sont pas pour la Russie.
Si tu es pour la Russie, après 5 ans, 6 ans peut-être, tu deviens député. Si tu n'es pas pour la Russie, tu ne dois pas faire du journalisme. Point. Sans quoi, tu fais de la propagande contre l'État. Point. La propagande contre l'État est punissable. Par la mort. Tôt ou tard. Point. Mon fils a une drôle de voix. Il essaie de le cacher au téléphone. Si je lui demande « qu'est-ce que tu as fait ?», il me répond à 2 ou 3 reprises « rien, je te dis. Rien, je n'ai rien fait, ne t'en fais pas. » Quand je suis à l'étranger, loin de Moscou, on me dit toujours « ne t'en fais pas. » Ou bien « quand tu rentres, je te raconte. » Cette fois-là, c'est différent. Il me suffit d'insister un peu plus qu'à l'ordinaire. Ils ont tué une femme ce matin. Il y a eu un coup de feu juste ici en bas. Elle rentrait dans notre immeuble. Elle allait voir une amie au premier étage. Elle avait des cheveux blancs, ta taille. Elle avait ton âge, plus ou moins. C'était vraiment une femme comme toi. On dit qu'on a voulu l'enlever, mais... La voix de mon fils s'interrompt sur ce « mais ». Et moi qui suis ici, en Europe, loin de ma famille, dans ma chambre d'hôtel à Vienne, je me demande ce que ça veut dire. Il me faut un peu de temps pour réaliser... pour faire le lien. La voix de mon fils bégait. Ils ont tué, juste en bas de chez moi, une femme comme moi. Une femme comme moi. Cette phrase ricoche dans mon cerveau. Je raccroche. Je réfléchis encore 1 minute. Une femme comme moi. Tuée par erreur, parce qu'elle me ressemblait. Parce qu'elle entrait dans mon immeuble. Les cheveux blancs comme moi, ma taille, une femme comme moi. C'était mon tour, et c'est tombé sur elle. J'ai dénoncé, signalé, demandé, exigé. Mais au fond, à quoi ça sert? Qui s'est trompé tôt ou tard corrigera le tir? Je le sais. Peut-être demain, peut-être dans 1 mois, tôt ou tard. Anna Politkovskaya a été retrouvée morte le 7 octobre 2006 dans l'ascenseur de son immeuble à Moscou. Elle était rentrée à la maison après avoir fait ses courses. Ses sacs étaient nombreux et lourds. Elle les montait en 2 fois. La première était faite, la seconde a été interrompue. Les sacs sont par terre, renversés, dans le sang. 4 balles l'ont tuée, dont l'une a atteint sa tête. À côté du cadavre, on a laissé un revolver Makarov PM et 4 douilles. L'arme typique des homicides par ordonnance. La police a séquestré le PC de la journaliste et tout le matériel de sa dernière enquête sur les tortures en Tchétchénie. L'enquête était prête à être publiée dans le prochain numéro. Des mois plus tard, il est toujours sous séquestre. Non publiable jusqu'à date ultérieure. Les funérailles se déroulent le 10 octobre au cimetière de Troïeskourovski, de Moscou. Plus de 1000 personnes prennent part à la cérémonie. Parmi elles, aucun représentant du gouvernement russe, aucun des partis du gouvernement, aucun journal d'État. À la question « Quel est votre commentaire au sujet de la mort d'Anna Politkovskaya ?», l'un des hommes les plus en vue de l'établissement répond « Désolé. Je ne sais pas qui est Anna Politkovskaya.
D'écouter une histoire vraie. Et vous êtes toujours sur Radio Canu avec le Théâtre de la Gamelle. C'était la lecture de Femmes non rééducables de Stefano Massini, proposée par Léa Goud. Ce texte avait déjà été présenté en lecture théâtralisée le 6 octobre dernier au Théâtre du Gros Caillou. Et un jour plus tard, c'était donc le 7 octobre 2016. 10 ans donc, qu'Anna Politkovskaya avait disparu. Enfin, c'est pas du tout le mot approprié. Cela faisait 10 ans qu'Anna Politkovskaya avait été assassinée, supposément, plausiblement, sans aucun doute, par les autorités russes. Le 7 octobre. Et en préparant l'émission, je n'ai pas pu m'empêcher de noter que le 7 octobre, c'est également la date d'anniversaire de Vladimir Poutine. Happy birthday, Mr. President. Te voilà débarrassé d'une femme non rééducable. Merci encore à Liagoud pour nous avoir proposé cette lecture. Il s'agissait d'un montage, donc je vous invite à aller découvrir le texte intégral qui est publié, si je ne me trompe pas, aux éditions de l'Arche. Voilà. Et avant de vous quitter, un petit point agenda. Comme c'est les vacances, il y a énormément de créations jeunes publiques et parmi l'une d'elles, nous avons à l'Espace 44, un théâtre qui se trouve dans les pentes de la Croix-Rousse, la compagnie Les Planches et les Petites Dames qui vous propose Théâtrogramme, qui est donc une création jeune public à découvrir à l'Espace 44. Pour les horaires, je vous invite à aller voir sur le site internet de la compagnie ou de l'Espace 44. Et sinon, pour ce week-end, on peut aller danser et surtout aller voir de la danse. C'est parce que c'est le festival de danse Caravelle qui se trouve surtout du côté de Bron. Voilà. Eh ben, j'espère que vous avez passé un agréable moment sur le théâtre de la Gamelle. Alors, agréable peut-être pas. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bonne semaine. Portez-vous bien.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art, le l'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imiter son silence.